découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nutri Radio. J'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous allez pouvoir y trouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester à la pointe de la santé intégrative. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet aussi vaste que fondamental, c'est l'eau. Et comme chaque lundi de 10h à 11h, c'est un honneur de retrouver le docteur Jean-Paul Curtet, pionnier de la nutrithérapie. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Ombline, vous avez choisi le bon mot. On va plonger dans le sujet, le sujet de l'eau qui est une molécule évidemment très très spéciale. Vous avez peut-être quelques souvenirs d'école d'Antoine Lavoisier, un fondateur de la chimie en France qui a découvert cette H2O. Que dans l'eau, il y avait l'hydrogène et l'oxygène,
oui.
Qui malheureusement, bon, il a été guillotiné sous la Révolution parce qu'il était aussi collecteur d'impôts, le pauvre. Mais bon, donc cet hydrogène, c'est la première lettre de l'alphabet de tout ce qui existe. En fait, elle ne comporte cet atome qu'un seul proton et a été créé tout de suite après le fameux Big Bang qui a donné l'origine à tout ce qui existe, l'espace-temps, la matière. Et tous les autres atomes qui nous composent, nous, qui composent tout ce qui nous entoure, viennent d'une condensation de cet hydrogène avec d'autres molécules qui permet d'en faire de plus en plus complexes. C'est le fameux tableau de Mendeleïev. Par exemple, un hydrogène plus un hydrogène donne un hélium, donc à deux protons, ainsi de suite. Donc, c'est comme disait Hubert Reeves, vous vous rappelez, l'astronome hyper sympathique qui a animé beaucoup d'émissions et fait connaître l'astronomie, nous sommes des poussières d'étoiles. Notre propre Soleil brûle à chaque seconde 627 millions de tonnes d'hydrogène,
oui.
Chaque seconde, pour en produire d'autres, et tous les autres atomes proviennent de fusions successives, donc de plus en plus riches en protons, jusqu'à un atome qu'on appelle l'organesson, élément 118, qui contient donc 118 protons équivalents à 118 atomes d'hydrogène. Alors l'oxygène, l'autre molécule de l'eau, qui en comporte 8 de ces protons, est un pur produit des étoiles. Donc l'eau, une molécule très banale dans le cosmos, provient de l'association de la première lettre de l'alphabet atomique, l'hydrogène, avec un des dérivés de ces fusions qui se déroulent au cœur des étoiles, l'oxygène. Donc cette molécule, on peut aujourd'hui, avec les moyens technologiques extraordinaires qu'on a pu développer, des télescopes spatiaux, etc., on peut la détecter en abondance dans les espaces interstellaires, dans notre système solaire, bien sûr, sur Terre. Mais on sait maintenant qu'il y en avait sur Mars, puisqu'on a des tas de traces de mouvements d'eau. La Mars ressemblait un peu à la Terre à son début. Sur Europe, une autre lune, une lune de Jupiter, qui est couverte d'une glace, qui recouvre un océan profond. Encelade, une lune de Saturne, qui éjecte dans l'espace des geysers hauts de plusieurs centaines de kilomètres. C'est un truc qui vaut le coup de voir sur les vidéos. Ainsi que beaucoup d'astéroïdes et de comètes, dont certains ont probablement contribué à la présence d'eau sur notre planète, qui est évidemment, comme la Lune, comme Mars, couvert de cratères, a été bombardé. Simplement, l'érosion a effacé beaucoup de ces cratères. Donc, ce qui fait que l'eau est si importante pour la vie, c'est qu'elle est un solvant. Elle est capable, grâce à ses liaisons hydrogènes, de bloquer n'importe quelle molécule et de le véhiculer. Ce sont des molécules vibrantes, ces molécules d'H2O, 18 000 milliards de fois par seconde, oui, ou 18 terahertz, et ça forme des sortes de cages qui isolent les autres molécules, lui donnant donc ses capacités exceptionnelles de solvant. Bon, vous savez que, vu le nombre de planètes qu'on découvre, hein, extrasolaires, depuis 1995, on est quasi sûr aujourd'hui que mathématiquement, il y a forcément de la vie ailleurs. Mais, bon, aujourd'hui, les spécialistes de recherche de la vie extraterrestre recherchent d'abord la présence d'eau. Enfin, c'est pour ça qu'on a cité aussi ces astres de notre système solaire qui en contiennent.
Et pourquoi on parle d'ADN, d'ARN, de membranes lipidiques, etc.
Ah ben ça n'a absolument rien à voir, Omeline. C'est les molécules qui contiennent l'information de notre système.
D'accord.
L'ADN, l'ARN. Donc l'eau, on parle là du solvant hein, qui permet à toutes ces molécules essentielles à notre fonctionnement de circuler, y compris les protéines, les glucides, les lipides, eux, c'est un peu spécial, ils sont hydrophobes, ils repoussent l'eau.
D'accord.
C'est probablement pour ça que nos membranes cellulaires sont formées de graisse, parce qu'elles repoussent l'eau, ça nous fait comme une maison, hein, si vous voulez, on repousse à l'extérieur ce qui ne nous intéresse pas, ça permet de concentrer à l'intérieur ce qui nous intéresse, et c'est comme ça que la cellule est née.
Et notre corps, il est composé à 60% d'eau, certains organes beaucoup plus. Quels sont les impacts d'une déshydratation légère sur les fonctions cérébrales, musculaires ou même métaboliques ?
Oui, alors en effet, l'eau est notre constituant principal. Notre corps en contient à peu près 60%, ce qui correspond pour une personne de 70 kg à 42 litres d'eau. Alors les femmes, elles ont plus de cellules graisseuses comme réserve énergétique, c'est au cas où on manquerait de nourriture pour la grossesse ou l'allaitement, et ont une proportion d'eau un petit peu plus faible, de 55%. C'est les bébés qui sont les plus aqueux, on va dire. Ils sont composés à 78% d'eau. Le bébé, il faut qu'il soit un peu mou pour pouvoir sortir du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il n'est pas ossifié, il est très peu ossifié. Il n'y a que 30 grammes de calcium dans le squelette du bébé qui sort à la sortie. Il est tout élastique pour pouvoir sortir.
C'est fou quand même. Hein.
Oui, on est bien fait, c'est clair. Alors la proportion, comme vous le suggériez, Omeline, elle est différente selon les organes pour l'eau. Le plus riche est évidemment le sang, hein, qui est à 79% de l'eau. Puis viennent les poumons. Puis, ce qui se peut surprendre, mais qui a d'importantes conséquences, le cerveau, hein, 76%, les muscles. Et en fin de liste, évidemment, les os, 22,5%, et le tissu adipeux, 10%. Donc imaginez-vous ce que serait de manger s'il n'y avait pas d'eau dans l'aliment, pas de salive dans notre bouche, hein, c'est comme avoir une pierre bloquée sur sa langue. Donc quand la nourriture mâchée, grâce à la présence d'eau, arrive dans l'estomac, celui-ci ferme la sortie de l'estomac, hein, qu'on appelle le pylore, c'est un sphincter, et tout le bol alimentaire tourne comme dans une machine à laver, pendant que plusieurs litres de liquide à chaque repas permettent la dissociation de ce qu'on a mangé, c'est-à-dire la digestion, en petites molécules absorbables qu'on va pouvoir recombiner dans les molécules qui nous sont essentielles.
Et on parle beaucoup aujourd'hui d'eau polluée, appauvrie, déstructurée. Que penser de la qualité de l'eau qu'on boit aujourd'hui et surtout de son impact
sur la santé ? Oui, alors ça, Omeline, ça va être l'objet de plusieurs émissions. Là, si vous voulez, on se consacre à comprendre l'importance de l'eau. La pollution, ça va être dans 2 semaines. On va aborder la pollution de l'eau.
D'accord.
Donc, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas absorber quoi que ce soit sans liquide. C'est tout simplement impossible. Nos canaux intérieurs, sans l'eau du sang, comment véhiculerait-il, distribuerait-il les nutriments à chaque organe, à chaque tissu, à chaque cellule, sans lesquels ils ne peuvent ni vivre ni fonctionner ? Et s'il n'y avait pas de liquide donc synovial entre nos os, par exemple nos articulations, chaque cartilage raboterait l'autre, serait broyé en quelques heures, avant que les os eux-mêmes ne suivent et se désintègrent. Donc tous nos mouvements sont huilés, on ne s'en rend pas compte parce que c'est pour nous automatique, mais c'est grâce à ces liquides et à l'eau. Donc s'il n'y avait pas de liquide spermatique non plus, comment les spermatozoïdes sortiraient du pénis ? Comment remonteraient-ils dans l'utérus ? Comment atteindraient-ils les ovules ? Donc vous comprenez aussi qu'on ne peut pas se reproduire sans eau. Évidemment, bon, ce qui est la reproduction, c'est évidemment une qualité essentielle de la vie. Et évidemment, sans eau, une mère ne pourrait pas héberger son bébé qui baigne dans sa piscine privée, le liquide amniotique, avant d'être, après sa naissance, nourri de son lait qui contient 87,5% d'eau. En fait, le bébé ils baignent dans une piscine chauffée à 37 degrés.
Génial, hein ? On en rêve.
Et voilà, on y retourne.
On fait une petite pause sur Nutri Radio, on revient juste après avec vous, docteur Curtet, ne bougez pas.
Nutrithérapie & Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Et on est de retour ici sur Nutri Radio avec le docteur Jean-Paul Curtet. Jean-Paul, on parle de l'eau aujourd'hui.
Absolument. Et donc, j'étais en train d'expliquer que finalement, je pense que tout le monde s'en convainc facilement que la vie, que ce soit des bactéries, des plantes, des champignons, des insectes, des mammifères, donc nous aussi, est impossible donc sans cette eau. Il est aujourd'hui quasiment certain que la vie est apparue sur Terre dans de l'eau. L'eau, par ailleurs, a protégé les premiers acides nucléiques. Vous parliez tout à l'heure d'ADN et d'ARN. Mmh. C'est les molécules nobles qui contiennent l'information, qui avaient besoin d'être protégées par des cellules. Et les premiers micro-organismes, des rayonnements ultraviolets, qui les auraient sinon détruits. Parce que vous rappelez peut-être qu'au début, notre atmosphère ne comportait pas d'oxygène. L'oxygène est un sous-produit de la vie. Ce sont des micro-algues sous la surface des océans qui ont appris à digérer l'eau, encore elle, pour séparer d'un côté l'oxygène qui s'est d'abord dissous dans l'eau avant d'enrichir l'atmosphère. C'est grâce à ça qu'on respire. Aujourd'hui encore, c'est les forêts, comme vous le savez, et le plancton qui pratiquement moitié-moitié nous fournissent l'oxygène qui nous permet de vivre. Et de l'autre côté, l'hydrogène. Qu'est-ce qui devient, lui, l'hydrogène ? Eh bien, il était utilisé pour se combiner au fameux gaz carbonique qui, aujourd'hui, nous pose des problèmes avec cet excès et le réchauffement qui en découle. Et que donne l'hydrogène combiné au gaz carbonique ? Eh bien, il donne des glucides. Tout le monde connaît. Les glucides sont le carburant principal de tout être vivant. Donc, cette double opération, c'est évidemment, vous l'avez repéré, c'est la photosynthèse, réalisée grâce à l'énergie des rayons ultraviolets, avec l'aide de la chlorophylle, qui donne le vert à nos végétaux. L'eau nous est donc aussi indispensable à la fois pour produire les calories, sans lesquelles nous n'aurions aucune énergie, toutes nos calories viennent de là, et l'oxygène, sans lequel nous ne pouvons pas brûler ces calories, puisque soit on consomme des plantes, soit on consomme des animaux qui ont consommé les plantes, donc c'est les fameux glucides fabriqués grâce à la digestion de l'eau, qui nous donne à la fois, si vous voulez, le carburant et l'oxygène pour le brûler. Donc sans eux, on ne serait pas là, bien sûr. Il est temps de s'en rappeler, au moment où les forêts dans le monde rétrécissent comme peau de chagrin, les plantes aussi, l'océan est très très endommagé, il y a même des zones mortes sans oxygène, on en reparlera. Les plantes terrestres fournissent donc la moitié de notre oxygène, et l'autre moitié vient de ce plancton, qui souffre aussi du fait du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, etc. Et donc, je parlais de zones mortes. Qu'est-ce que c'est que ça ? On observe une multiplication de ces zones mortes dans les océans. C'est des zones dépourvues d'oxygène dans les océans, les mers, les lacs. Alors, quelle est la cause de ce phénomène qui s'amplifie énormément ? Principalement, des rejets industriels et agricoles, surtout des engrais azotés, dont les excédents s'écoulent à partir des côtes. Au total, 400 millions de tonnes de déchets qui finissent chaque année dans les océans et dont une partie revient dans notre assiette via les produits de la mer que nous consommons. Et s'ajoutent à cela, évidemment, d'autres pollutions, dont la plus préoccupante, celle de stocks de munitions militaires conventionnelles chimiques aussi, qui ont été massivement immergés depuis la Première Guerre mondiale. En 1995, des experts réunis par l'OTAN avaient prévenu que les obus commenceraient probablement à fuir vers 2005. Un rapport de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, ou Convention OSPAR, a détecté juste dans l'Atlantique Nord, 148 zones concernées, dont 30 uniquement avec des armes chimiques et 3 au contenu dit inconnu, qui coïncident avec des zones mortes. Les munitions laissent du cuivre, des métaux lourds, de l'arsenic dans les eaux profondes. Les robots sous-marins ont pu photographier les douilles vides et rongées qui se sont donc vidées de leur contenu. Et ensuite ont été largués en mer des déchets radioactifs. Entre 1946 et 1993, 14 pays ont procédé à des immersions de déchets radioactifs, dont des cuves de réacteurs contenant encore du combustible, dans plus de 80 sites situés dans les océans Pacifique, Atlantique, Arctique, juste dans l'Atlantique Nord-Est, 200 000 fûts, une pratique interdite, évidemment, à partir de 1993. Donc cette eau qui nous est si précieuse, hein, vous commenciez à l'évoquer, elle est malheureusement très endommagée. On va avoir l'occasion d'en reparler évidemment beaucoup, et aussi comment se procurer une eau plus saine pour notre survie, hein, puisque l'eau, c'est pratiquement, avec l'oxygène, le premier aliment qui est prioritaire pour survivre.
Mais comment aider notre corps
jeûne, hein, on peut survivre un jeûne pendant quelques semaines, mais on ne peut pas survivre pendant plusieurs semaines sans boire, ce n'est pas possible.
Ah bah oui, sans eau, il n'y a pas de vie finalement. Hein.
On est dépendant évidemment plus vite de l'oxygène, hein, quelques minutes, mais tout de suite après, bah, c'est l'eau. Donc cette histoire de zone morte, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On parle beaucoup du réchauffement, on parle beaucoup de l'acidification de l'océan, on parle de la perte de biodiversité, tout ça c'est vrai, mais il y a aussi d'autres phénomènes, hein, de limites planétaires. Ce phénomène de zone morte est très inquiétant, hein, c'est pour ça que je le développe, parce que c'est la source de notre vie aussi, hein, l'océan. Donc en 2004, le nombre de zones mortes identifiées était de 150, hein, de 450 en 2008. Elle couvre au total plusieurs millions de kilomètres carrés et concerne toutes les mers. En France, une zone morte a été identifiée dans la baie de Douarnenez, la Bretagne étant la championne des effluents de fertilisants, bon, comme tout le monde sait, avec cette histoire d'algues vertes qui a déjà fait scandale. Mmh. Ces zones mortes, donc dépourvues d'oxygène, sont étudiées depuis plus de 30 ans. Les poissons, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent connaissance, ils meurent, asphyxiés. De même que crevettes, crabes, homards, langoustes, moules, huîtres, coraux, etc. Et tout ça meurt, se décompose, ça crée ce qu'on appelle une nécromasse qui libère des toxines, dont par exemple une toxine botulique, on la connaît, hein, du fait de conserves mal faites qui sont mortelles, et il suffit d'un millionième de gramme pour en mourir. Donc, comme on le disait, selon les chercheurs, l'évolution des océans ont permis l'apparition de la vie. Leur eau a permis la circulation des molécules, puis des cellules, puis des organismes multicellulaires. Les scientifiques pensent que les molécules permettant la vie, ADN, ARN, sont apparues dans l'eau, donc se sont protégées du milieu extérieur par des membranes constituées de graisse. Vous parliez tout à l'heure en bline de lipides, qui sont, comme on l'a dit, hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau. On le constate quand on lave un saladier, par exemple. Les gouttelettes d'huile flottent à la surface de l'eau sous forme de micelles. Et donc, toute la reproduction se faisait aussi dans l'eau, hein, puisque lorsque les poissons ont commencé à sortir de l'eau, il y a entre 400 et 500 millions d'années, à gagner un nouveau territoire, la Terre, ils ont dû, comme aujourd'hui, les amphibiens, retourner à l'eau pour se reproduire. Mm-hmm. Après les amphibiens, si vous voulez, les reptiles ont inventé la ponte de contenant eux-mêmes de l'eau, ce qui ne les obligeait plus à retourner dans la mer, les lacs ou les fleuves pour se reproduire, comme ils continuent à le faire aujourd'hui. Par exemple, les grenouilles, les salamandres, les tritons retournent à l'eau pour se reproduire. Donc, selon certains scientifiques, la lactation aurait d'abord été inventée, hein, c'est notre premier milieu liquide après le liquide amniotique dans lequel on flotte dans le ventre de sa mère, le lait qui va nous nourrir, a d'abord été inventé par les reptiles pour humidifier les œufs et les préserver d'infections. D'ailleurs, le lait de femme aujourd'hui contient encore des peptides antibactériens, par exemple l'isozyme. Par la suite, comme on le sait, les mammifères ont adopté une solution encore plus radicale, hein, c'est celle de reproduire une mère intérieure au corps de la mère, hein, c'est le liquide amniotique, dans lequel se développe confortablement l'embryon, puis le fœtus. Donc on voit qu'à tous les niveaux, au niveau de la circulation, des échanges, du mouvement, de la reproduction, l'eau est absolument fondamentale. Sans eau, pas de vie.
Et vous, on va parler maintenant du tardigrade, cet ourson d'eau quasi immortel. Est-ce que cette capacité à survivre sans eau nous enseigne quelque chose sur la régénération cellulaire humaine ?
Oui, alors le tardigrade fascine énormément le monde scientifique. Pourquoi ? Bon, on l'appelle aussi l'ourson d'eau. C'est un tout petit animal qui fait au maximum 1 mm.
Ah oui, vraiment petit.
Très petit. Il se balade un peu partout, mais on ne le voit pas tellement il est petit, évidemment. Il est devenu célèbre, pourquoi ? Parce qu'on a découvert qu'il résiste quasiment à toute agression. Pratiquement le zéro absolu, moins 272 degrés, aux chaleurs extrêmes, 340 degrés, les irradiations massives, des pressions énormes équivalent à 60 km de profondeur, des salinités absolument considérables, l'alcool absolu, l'air liquide, l'absence d'oxygène. On l'a même placé, Omblin, dans l'espace et il a survécu.
Incroyable.
Et même exhibé des comportements reproducteurs dans l'espace. Même pas mal. C'est un extrême extrémophile. Si le manque d'eau est trop important ou d'autres circonstances trop défavorables, il va chasser l'eau de son corps et le remplacer par un sucre, qu'on appelle le tréhalose, ce qui lui donne une forme de petit tonneau. Quand il se réhydrate, il se reconstitue et repart comme si de rien n'était. Un botaniste qui a étudié une mousse à Kew Gardens, qui est un des plus beaux jardins botaniques mondiaux, côté de Londres, en a fait revivre un qui était dans cet état de cryptobiose, c'est le terme technique pour cette perte d'eau et ce passage en mort provisoire. C'est une vie devenue imperceptible, vraiment suspendue, sans le faire exprès. Il était dans cet état, ce petit tardigrade, depuis 80 ans. On estime que dans les glaces du Groenland, des tardigrades se mettent en dormance pour des milliers d'années s'il le faut. On en a identifié plus de 1100 espèces différentes, appartenant à un ordre à part de tous les autres animaux et possédant des gènes jamais observés ailleurs. D'ailleurs, certains scientifiques ont essayé d'injecter des gènes de tardigrades dans des cellules humaines et ont constaté qu'elles pouvaient, de ce fait, capter certains de ces super pouvoirs, évidemment. Une affaire à suivre.
On en parlera dans la prochaine émission. Merci beaucoup, Jean-Paul. La prochaine fois, on parlera pas assez ou trop d'eau, les effets du manque d'eau. Merci beaucoup, Jean-Paul. À bientôt.
Oui, à bientôt pour la prochaine émission.
Nutri-Thérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio.